Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier débat sur la fête L'Humain d'abord. Un débat très vaste et très dense pour ouvrir cette fête et je pense que ça n'est pas anodin. Traiter conjointement ces différents éléments, quel lien peut-on faire entre l'Europe et son processus historique de construction? Donc entre l'Europe et son processus de construction, l'établissement de la monnaie unique, jumelée aux règles arbitraires des traités et le statut improbable de la Banque Centrale Européenne, l'OTAN qui est une sorte de domination du capital américain, et la récente crise ukrainienne. Ce lien, il me semble, et je crois que nos intervenants d'aujourd'hui seront d'accord. Le gros mot est maintenant lancé, et je vais sans doute plus loin en citant lui aussi proscrit par la pensée de la doxa capitaliste, c'est Lénine, qui, dans son impérialisme stade suprême du capitalisme, donne de manière quasiment prémonitoire les réponses à nos interrogations de ce jour. Je vous conseille d'ailleurs sa lecture avec insistance, pour bien comprendre les enjeux de la période que nous vivons. Je vous conseille également de vous intéresser de près aux travaux de l'historienne Annie Lacroix-Ritz, qui s'est beaucoup interrogée sur le lien entre la concentration du capital dans une logique globaliste et le mouvement politique et historique sur le continent européen. Voilà, ceci étant dit, j'en reviens à ce qui nous concerne aujourd'hui. Je vais vous présenter donc nos intervenants du jour. Donc Hervé Poli, le premier secrétaire de la Fédération du Parti communiste du Pas-de-Calais. William Roger, qui représente la coordination communiste. Raoul Edebeau, qui est député belge et porte-parole du PTB. Et Marianne Dunlop, qui est co-auteur avec Daniel Blétrac de l'ouvrage URSS 20 ans après, retour de l'Ukraine en guerre. Donc ma première question, je vais la poser à Marianne parce qu'elle a mené donc ce travail d'expertise avec Daniel en Ukraine. Est-ce que tu peux nous donner voilà, le ressenti que tu as eu sur le terrain, les logiques entre, on le sent bien, qui sont en train de diviser le peuple ukrainien sur place. Voilà, et puis ensuite, je pense que nos camarades pourront réagir aussi à leur manière sur cette question.
Oui, Guillaume a parlé du rapport entre le thème de l'Ukraine et le thème de l'OTAN. Je pense que c'est assez clair. Et là, je n'y pensais pas, mais ça me revient à l'esprit à l'instant. Il y a une dizaine d'années que je suis le blog des communistes russes, du Parti communiste de la Fédération de Russie. Et déjà, il y a 10 ans, il y avait une manifestation à Sébastopol, qui maintenant est retournée à la Fédération de Russie, donc à Sébastopol. Une manifestation en Ukraine à l'époque contre les bases, contre l'OTAN, c'est-à-dire contre la présence de navires de l'OTAN à la base de Sébastopol. Et c'était un bateau américain de l'OTAN, il n'a pas pu accoster parce qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes sur le port qui interdisaient l'accès, et c'était déjà il y a 10 ans. Et il y a eu régulièrement des manifestations de ce genre. Je vais vous parler un petit peu des origines de ma collaboration avec Daniel Blétrac, parce que je pense que ça a aussi un rapport direct. En 2008, il s'est passé beaucoup de choses. C'est une année où il s'est passé beaucoup de choses, et il y avait les troubles au Tibet qui ne sont pas arrivés par hasard, parce que c'était au printemps, et en été, il devait y avoir les Jeux olympiques à Pékin qui se sont tenus et qui se sont très bien tenus. Et j'ai cherché des informations un petit peu partout sur Internet, et c'est là que je suis tombée sur le blog de Daniel Blétrac, et qui m'a semblé le plus pertinent sur la question. Et peu à peu, j'ai commencé à faire des traductions du russe, puisque je suivais les blogs communistes russes. Et à l'époque, sur les réseaux russes, il y avait des très grandes inquiétudes pour leurs propres Jeux olympiques de 2014. Parce que... On ne nous laissera jamais tenir des Jeux olympiques. De même qu'ils étaient inquiets pour les Jeux olympiques d'été en Chine. Et quand il y a eu les Jeux olympiques à Sotchi, j'ai dit à Daniel, il était prévu qu'on fasse un voyage un jour, et j'ai dit il faut qu'on aille à Sotchi. Parce qu'on était assez enthousiastes aussi de la façon dont ça s'est déroulé, avec l'ouverture et la fermeture, avec l'apparition des symboles, la faucille et le marteau, etc. C'est-à-dire une présentation tout à fait positive de l'URSS et de l'Union soviétique. On était parti pour aller à Sotchi. Et puis, au mois de mars, il y a eu le référendum en Crimée. Et là, nous avons décidé de nous rendre sur place
et de voir ce que les gens pensaient réellement en Crimée. Donc il faut dire que Danielle Bétrac est une sociologue et elle a l'habitude des interviews, elle a l'habitude des enquêtes sur le terrain, et notre but c'est pas du tout de faire un ouvrage de propagande basé sur rien, mais vraiment donner la parole à ceux qui sont privés de parole, être un passeur. Moi, je suis traductrice, professeure, traductrice. Nous sommes des passeurs de parole. Et ce que nous racontons dans ce livre, résultat de 2 semaines passées en Crimée, puis ensuite en Ukraine et à Odessa, c'est vraiment donner la parole aux gens, rétablir la vérité. Alors, il y a 3 thèmes principaux dans ce livre qui sont abordés. Parce que, bon, l'Ukraine, nous sommes allés seulement à Odessa, hein. Et en Crimée, mais qui est en Russie maintenant. Donc c'est le thème de la guerre. Ça, c'est à mon avis vital pour nous tous, et nous devons être extrêmement vigilants parce que les risques de guerre sont encore immenses. Et depuis 2008, il y a eu ces histoires au Caucase. Depuis 2008, l'impérialisme cherche à tout prix à créer des nouveaux foyers de guerre, et la lutte pour la paix est vraiment primordiale. Donc je commence par ça. Vous lisez ce livre, vous aurez vraiment la preuve vivante avec les dizaines de personnes qu'on a rencontrées qu'en Crimée, les gens étaient vraiment super ravis d'avoir rejoint la Russie, et que le référendum, c'était absolument pas du pipeau comme on veut nous le faire croire ici en France. Les médias mentent totalement que c'est devenu très très grave. Et là-bas, les Ukrainiens ou les Russes, les Moldaves que nous avons rencontrés nous plaignent. Et vraiment, ils plaignent de tout cœur, c'est sincère, ils plaignent de tout cœur les Français qui n'ont pas accès à l'information. C'est pourquoi ils étaient très heureux aussi de parler avec nous, et ils faisaient la queue, comme disait Daniel, comme à Confesse, pour être interviewés et pour qu'on transmette leurs paroles vivantes à vous tous qui êtes là réunis. Ça, c'est très, très important. La deuxième question, c'est le fascisme. On peut dire la fascisation, c'est pas encore, l'Ukraine n'est pas encore un État fasciste, mais c'est un État où on voit à l'œuvre la fascisation. Et ça, c'est extrêmement bien illustré par le récit de notre semaine passée à Odessa, où nous avons en particulier rencontré 7 maires du comité des maires d'Odessa, 7 maires qui ont perdu leur enfant, qui ont perdu leur fils, qui avait 25 ans, qui avait 20 ans, le plus jeune avait 17 ans, c'était un jeune communiste. Et ces 7 mères nous regardaient, là, comme vous me regardez maintenant, avec un espoir immense que nous allons apporter en Occident la vérité sur ce qui s'est vraiment passé. Ces gens qui ont été brûlés vifs à la maison des syndicats le 2 mai 2014, et ceux qui ont sauté par les fenêtres et qui n'étaient pas encore morts à l'arrivée, ont été achevés à coups de barre de fer. Donc la fascisation, elle est réelle, et on pose effectivement la question, et à différents niveaux dans ce livre. La troisième question, c'est celle de l'URSS, c'est pourquoi le livre s'appelle « URSS 20 ans après ». Moi, j'avais suivi ce qui se passait en Russie, puisque je suis professeur de russe depuis de nombreuses années. J'avais suivi depuis de nombreuses années ce qui se passait, et j'ai appris qu'effectivement, nous avait raconté une histoire qui était totalement fausse sur la chute de l'URSS. Et j'ai appris les détails, c'est-à-dire 91, le référendum du 17 mars, où l'écrasante majorité des citoyens soviétiques ont demandé le maintien de l'URSS. Et quelques mois après, l'URSS a été dissoute par 3 personnes, uniquement d'une manière totalement antidémocratique. 93, c'est quand Yeltsin a fait tirer sur le Parlement, où il y a eu, on ne sait pas, entre 300 et 2000 morts, on ne sait rien. Et 96, où le Parti communiste a failli revenir au pouvoir, c'est seulement par des magouilles électorales que le Parti communiste n'est pas revenu. Donc, quand on dit URSS 20 ans après, c'est tous les gens qu'on a interviewés avaient un regret immense de l'Union soviétique. Et le quatrième thème, mais c'est un thème à venir, ce sera sans doute le thème de notre prochain voyage avec Danielle Bétrac, c'est le thème des BRICS. C'est-à-dire, parce qu'on a vu le 9 mai à Moscou aussi, avec la présence du président chinois, c'est-à-dire une alliance nouvelle de Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et avec l'organisation de coopération de Shanghai, et tout ce monde émergent qui commence à redresser la tête. Et nous avons l'intention d'aller justement à Novosibirsk, capitale de la Sibérie, où... qui est une ville de plus d'un million d'habitants et où le maire est communiste, a été aux dernières élections. C'est une ville qui est devenue communiste.
Merci Marianne. Donc l'Ukraine, c'est un pays complexe, hein. Ça fait maintenant plus d'un siècle que les Américains veulent avoir la mainmise sur ce pays. C'est aussi un frein à l'expansion de l'impérialisme allemand à l'Est. Et c'est l'une des raisons, aussi l'une des causes, hein, de la crise ukrainienne. Et aujourd'hui, on sent comme une sorte de réminiscence de la guerre froide, avec d'un côté un bloc états-unien-européen Et la Russie qui se sent menacée, c'est sa zone d'influence qui est directement menacée par la crise ukrainienne. Alors peut-être que nos camarades, peut-être Raoul, peut avoir quelques mots sur cette problématique précisément.
Tout d'abord, merci beaucoup à la Fédération du Pas-de-Calais pour l'invitation de cet après-midi. C'est un honneur pour nous d'être présents ici pour la première fois officiellement avec une délégation du PTB à cette fête de l'Humain d'abord. Donc merci beaucoup tout d'abord. Et merci d'autant plus. Oui, merci Nadia. Tout à fait. Les camarades belles sont là. Et d'autant plus intéressant, on dirait qu'un débat qui est vaste et qui est compliqué, mais qui est un enjeu primordial pour les années à venir. Je pense que sur la situation aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, finalement, n'est pas qu'une question nationale ukrainienne, mais derrière tout ça se cache finalement le remodelage du monde à la sauce de l'OTAN. Je crois qu'on a fait tout à l'heure le lien avec l'OTAN. Je parlerai un petit peu de l'Union européenne et du rapport de l'Union européenne et l'OTAN par après. Mais c'est clair, en tout cas, que dans notre grille d'analyse, il se passe réellement aujourd'hui une volonté des forces de l'OTAN d'aller étendre les frontières à l'Est. C'est pas nouveau, hein. On avait déjà eu le cas avec les pays baltiques, on avait déjà eu le cas avec les pays qui ont intégré l'Union européenne avec les bases américaines. Je vous ai remarqué, chaque fois qu'un pays de l'Est intègre l'Union européenne, les bases américaines sont tout de suite installées. Donc je crois que c'est quand même un danger important. Et on voit réellement cette poussée vers l'Est de l'impérialisme européen et américain, parce que je pense que là, de ce côté-là, on décèle quand même très peu de contradictions entre l'Europe et les États-Unis sur le sujet. On a eu une discussion au Parlement belge il y a 3 semaines sur la politique de paix, parce qu'ils appellent ça chez nous la politique de paix pour aller faire la guerre, hein, donc c'est comme ça qu'ils appellent ça dans le Parlement. Je ne sais pas si comme ça c'est la même chose à l'Assemblée nationale en France, mais donc c'est la politique de paix de la Belgique. Et donc, en gros, il y a sur plus ou moins 56 pages de résolution, il y a une mention de l'ONU, quoi. C'est vraiment à l'entrée, quoi. C'est la Belgique s'intègre dans des cadres multilatéraux internationaux comme l'ONU et l'OTAN. Et puis après, sur l'ensemble du texte, il y a 47 mentions de l'OTAN. Et donc, l'ensemble de l'armée belge est vraiment dans une intégration globale de l'OTAN. Et donc, et là, je crois que c'est un point intéressant, c'est pour que je fais cette petite parenthèse belge, c'est une intégration offensive dans l'OTAN. C'est-à-dire que le matériel demandé par l'OTAN n'est pas du tout un matériel défensif de territoires nationaux, mais c'est un matériel offensif. Donc, par exemple, chez nous, c'est toute la polémique sur la commande de nouveaux avions de guerre. Nous avions pour l'instant des F-16 américains. Et donc l'idée de commander des nouveaux avions, les F-35. Pourquoi les F-35 américains? Parce que ce sont des avions capables de transporter des ogives nucléaires. Or, il faut savoir qu'en Belgique, officiellement, il n'y a pas d'armes nucléaires. Nous, chez nous, normalement, on a un pays, il n'y a pas d'armes nucléaires, mais on va quand même acheter des avions pour mettre des bombes nucléaires, histoire de se dire, on ne sait jamais si on en aurait. Et donc, ça fait déjà 25 ans qu'il y a une polémique en Belgique. En fait, on a un camp militaire dans le Limbourg belge de Kleinbrogel, dans lequel il y a des ogives nucléaires de l'OTAN. Et donc, vous allez me poser la question, mais pourquoi avoir besoin d'ogives nucléaires pour protéger un territoire national? Évidemment, une arme nucléaire n'a aucune vocation défensive, mais une vocation offensive. Et c'est bien le but, c'est d'avoir besoin des F-35 pour pouvoir aller à l'offensive. Et donc, c'est là où je reviens sur la question ukrainienne, c'est qu'il y a clairement une option stratégique de la Belgique dans le cadre de l'OTAN de pouvoir postposer les limites nationales, les limites plutôt de l'influence européenne et américaine. Ça m'amène au deuxième point, et je pense que c'est ça qui rend quand même complexe la situation dans la région. Mais là, je partage modestement un peu l'analyse avec le PTB, mais je pense qu'on devrait beaucoup plus en discuter entre camarades. C'est que la complexité, selon nous, est quand même celle que le régime russe lui-même a changé depuis 89 et 91. Je veux dire, ça, tout le monde ça, je le sait, évidemment, on l'a assez rabâché. Et donc, on a pour nous, dans le cadre de Poutine, une relation très complexe dans le fait que, pour nous, nous qualifions la Russie d'un sous-impérialisme régional, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un pouvoir d'État, je veux dire socialiste, voire même d'indépendance nationale comme on pourrait l'avoir dans les pays du tiers-monde. Je crois que pour l'instant la Russie ne souffre pas en interne d'une oppression nationale dans une autre nation, mais en même temps, il y a dans le chef, je veux dire, de la Russie actuellement, une réelle volonté d'indépendance par rapport à l'OTAN. Donc pour nous, c'est clair que dans le cadre d'un combat anti-impérialiste, on se doit de soutenir, je veux dire, le multilatéralisme au niveau mondial. Je crois que ça, c'est important. Mais en même temps, on a cette réalité que je fais exception du Donbass, c'est pas le, enfin, on peut aborder tout à l'heure sur des dynamiques politiques propres et internes à l'Ukraine. En tout cas, on ne peut pas assister aujourd'hui à la Russie, on ne peut pas dire qu'on assiste à une renationalisation de certains secteurs, que du contraire, on a plutôt, je veux dire, une mainmise quand même de plus en plus forte du marché russe. Mais quand même de logique capitaliste interne à la Russie. Je crois que c'est une complexité dans la phase actuelle et on pourrait étendre même ce type d'analyse à certains BRICS. Je ne mets pas du tout la Chine dans une même grille d'analyse, mais je pense par exemple par rapport à que soit l'Inde, qu'en soit en partie, je veux dire le Brésil, les logiques, je veux dire, d'anti-impérialisme par rapport à des sous-impérialismes, c'est une question qui est très complexe, qui dépend de développement interne. Bon, ça nous mènerait dans un tout long débat, mais en tout cas, soyons clairs, en tout cas, les mouvements anti-impérialistes se doivent, à mon avis, en Europe, de dénoncer en tout cas la logique de l'OTAN, la logique de l'OTAN qui est celle d'avoir un impérialisme dominant mondial, c'est-à-dire un imprisme européen sous domination américaine qui va aujourd'hui régler l'ensemble des différends dans l'ensemble du monde. Et je crois que là-dessus, il y a un combat et démocratique et anti-impérialiste important à mener dans l'ensemble des pays européens. Et je crois que c'est un des buts. Je pense que la question de la dissolution de l'OTAN, par exemple, pourrait être un combat commun dans l'ensemble des forces anti-impérialistes européennes. Je crois que c'est un point sur lequel on doit continuer à avancer dans les semaines et les mois à venir. Voilà.
Oui, bonjour. Donc, merci aussi à Hervé et à la Fédération du Pas-de-Calais pour cette invitation, pour ce débat, pour la coordination communiste. Je voulais simplement apporter quelques idées et rappeler que, en lien avec ce qui vient d'être dit par le camarade Raoul, cette question de l'Ukraine, elle est complètement liée à l'Union européenne, puisque le changement politique, la dite révolution, hein, comme on l'appelle, Euromaïdan, révolution, ce n'en est pas une, bien évidemment, mais elle a quand même débuté par les manifestations en novembre 2013, quand précisément le président Yanukovych a refusé de signer l'accord de coopération avec l'Union européenne qui était prévu. C'est-à-dire que le gouvernement Yanukovych était en négociation avec l'Union européenne, et puis à la dernière minute, je dirais, il a hésité, il a reculé. Et c'est ce qui a été le signal de départ, finalement, des manifestations qui, clairement, même si ça pouvait s'appuyer sur des revendications de la population, il faut évidemment voir ce double aspect, puisque le représentant Yanukovych n'était pas du tout un démocrate. C'était, en fait, comme les Ukrainiens qualifient d'oligarque, généralement c'est le terme qu'ils emploient beaucoup en Ukraine pour désigner leurs dirigeants qui sont en réalité des personnes de la bourgeoisie très riches qui possèdent nombre d'entreprises et qui s'enrichissent plus au détriment de la population. Donc une volonté de révolte, mais qui tout de suite instrumentalisée, évidemment, par l'Ouest, par l'Occident, pour essayer de gagner, de ramener ou de faire en sorte que l'Ukraine soit vraiment rattachée au camp européen, dans cette volonté d'avancer toujours plus vers l'Est. On le voit sur le plan militaire de l'OTAN, mais on le voit aussi sur la volonté de par des traités de coopération avec l'Union européenne, ou simplement par la volonté d'agrandir ses frontières de ce bloc impérialiste en construction qu'est l'Union européenne, qui avance ses frontières de plus en plus vers l'Est, de plus en plus vers l'Est, dans une contradiction. Évidemment, il y a des discussions à avoir sur la nature du régime aujourd'hui de Poutine et de la Russie. Ce qu'on peut observer tout de même, et on le voit dans la situation actuelle, c'est que du point de vue des grandes puissances impérialistes, la Russie, même la Russie capitaliste d'aujourd'hui, quelque part porte encore les stigmates des 70 ans de communisme. Et finalement, la véritable contre-révolution finale ne sera jamais complètement achevée quand les impérialistes, je dirais, n'auront pas planté leur drapeau sur la place rouge à Moscou. C'est-à-dire il y a trop de forces de résistance ou de volonté d'indépendance qui s'expriment dans ce pays-là, qui a quand même mené et qui a été très loin dans les avancées sociales pendant plus de 70 années, et y compris le régime capitaliste tel qu'il est aujourd'hui en Russie, est un obstacle à l'avancée des forces impérialistes les plus puissantes, que ce soit les Américains, que ce soit l'Allemagne et ses alliés, que ce soit la France. Donc il y a une volonté, et on le voit sur la chaîne internationale, oui, les BRICS, mais aussi Donc le Brésil, des pays comme même l'Iran, l'Inde, la Chine, la Russie, et les alliances qui se font de plus en plus aujourd'hui, qui se sont exprimées, y compris le 9 mai à Moscou, pour la commémoration. On a vu cette grande alliance des peuples. C'est des alliances qui visent à réfréner d'une certaine façon les avancées des multinationales les plus puissantes et des pays impérialistes les plus puissants que sont aujourd'hui à l'échelle internationale les Américains, que l'Allemagne, l'Union européenne. Et c'est ça qui joue aussi quelque part en Ukraine. Et c'est pas étonnant que ceux qui résistent à cette avancée, on le voit au Donbass, quelles sont les mesures sociales qu'ils mettent en place. Il repose la question aujourd'hui de la nationalisation des entreprises. C'est-à-dire que ça naît d'une résistance nationale, mais cette résistance nationale, elle est intimement liée à des revendications économiques, bien évidemment. Et il pose la question de la propriété des entreprises, et c'est ça qui est intéressant à observer. D'un côté, on a une volonté d'intégration capitaliste qui s'exprime à la tête de l'État ukrainien. On change une équipe par une autre. Poroshenko, finalement, c'est un autre oligarque qui a pris aujourd'hui le pouvoir. C'est-à-dire qu'y compris les revendications des manifestations, des manifestants qui croyaient vouloir abattre un oligarque, finalement, se rendent compte que aujourd'hui, y compris, on le voit, y compris, il y a une déception, même si tout le monde ne voit pas clair sur la politique actuelle qui est menée avec cette politique de fascisation en Ukraine, mais il y a une déception qui s'exprime dans la population, parce que finalement, on a chassé un oligarque pour en mettre un autre, qui, finalement, de façon plus accélérée encore, mène la politique des Occidentaux. Il faut rappeler qu'en 2004, il y avait eu déjà ce qu'on avait appelé la révolution orange, avec Yulia Tymoshenko, en 2004, en Ukraine. C'est-à-dire que là, déjà en Ukraine, en 2004, il fallait vraiment en finir avec les stigmates du communisme en Ukraine. Maintenant, 10 ans après, à nouveau, on refait une révolution qu'on n'appelle pas orange, mais il faut encore en finir. On voit qu'on n'en finit jamais d'en finir. C'est bien parce que la force du communisme, c'est qu'à un moment donné, elle a laissé des traces très profondes dans cette société, y compris dans les volontés de lutte, de combattre, dans les mentalités, aujourd'hui, dans cet espace ex-soviétique. Et du point de vue des impérialistes, on aura réussi à obtenir totalement le marché libre, avec des travailleurs salariés, et esclaves, si je puis dire, et même psychologiquement esclaves, prêts à accepter en ayant abandonné toute volonté de lutte, quand on aura réussi à intégrer véritablement dans les nouveaux espaces démocratiques, entre guillemets, que sont l'Union européenne, l'OTAN, etc. C'est vraiment un enjeu important.
Je vais intervenir sur plusieurs points, après d'ailleurs, hein. Mais je voudrais d'abord dire que je vais m'exprimer en tant que secrétaire de fédération, mais pas seulement. Je vais vous dire ce que je pense en tant que Hervé Poli. Et c'est pas tout à fait la même chose. Quand même. Et bon, parfois, voilà, on a des déchirements, hein, c'est comme ça. Hein. Je dois dire que sur des questions internationales, je vais être provocateur. Je pense que mon parti est souvent à l'ouest. Hein? Voilà. Je le dis comme ça. Je le dis comme ça. Mais retenez cette formule. Bon, c'est ma formule, c'est la mienne. Voilà. Non, parce que sur plusieurs choses. D'abord, moi, je suis avec Marianne, on est tous les deux, hein, c'est elle qui me fait ma carte, je suis membre du collectif de la paix. Voilà. Parce que la paix, c'est une question de classe. Voilà. Ça, je pense que c'est important. Et je pense qu'on n'a pas assez de militants de la paix. Voilà. C'est un enjeu majeur. Et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine doit tous nous interpeller. Comprendre ce qui se passe en Ukraine, c'est comprendre le monde aujourd'hui. Je crois que c'est fondamental d'avoir ça en tête. Moi, je. Alors, dans mon parti, on me dit que je suis nostalgique. C'est bon, pourquoi pas nostalgique de l'Union soviétique, bien évidemment. Hein. C'est de ça qu'on me parle. C'est à ça qu'on me renvoie. Mais oui, je suis ici dans un département qui est jumelé avec l'Ukraine. Vous avez une ville. Alors, l'orthographe n'est pas la bonne. Hein. Il manque le H. Mais Tourezgrad, ça existe. Ça existe encore. Et c'est jumelé avec Avion, Salomine. Vous voyez, hein, c'est deux villes communistes. Et une autre ville du Nord. Donc, parce que c'est une région charbonnière. C'est la région minière où il y a une classe ouvrière. Et c'est pas rien. Donc c'est ça, ça c'est important. C'est des liens. Moi, les premières choses que je vois, c'est des camarades communistes ukrainiens. Bien évidemment, je pourrais vous parler de Vasil Boryk. À un bon moment, hein, Vasil Boryk. Son monument est là-bas. Donc c'est un Ukrainien qui est venu aider les camarades communistes français contre les nazis. Donc ça, c'est des choses qui sont fondamentales à avoir en tête. Et une date quand même, le 9 mai. Et j'ouvre le débat d'après, hein. Tout de suite après d'ailleurs, c'est le même débat. 9 mai 1950. Non, pas le 9 mai 1945. Hein. 9 mai 1950. C'est quoi cette date? C'est la déclaration du vichiste Schumann. 5 ans après la capitulation de l'Allemagne nazie, 5 ans après Schumann, collabo, parce que c'est un collabo. On va lui faire son CV après, lui et à Jean Monnet, hein. Quand même. Les pères de l'Europe, les pères de la démocratie, hein, c'est ce qu'on va nous vendre, hein, c'est ce qu'on nous vend. 5 ans après, Monsieur Schumann fait une déclaration en contrepoint du 9 mai que la France, que notre président n'est même pas allé en Russie, excusez-moi, à Moscou, pour célébrer le martyr des Russes, humains et militaires. 27 millions de morts, quand même. Donc, quand on parle du 9 mai 1950, on parle de beaucoup de choses. Et ce contrepoint au 9 mai de la libération par l'Union soviétique, de la capitulation de l'Allemagne nazie, ça, c'est important. Ayez cette date en tête, 9 mai 1950, déclaration de Schumann. Hymne à la gloire, je crois, c'est ça, c'est Beethoven, hein, si je ne me trompe pas. Franchement, Beethoven, il serait là, il se retourne, ce garçon. Franchement, c'est quoi pour les peuples européens aujourd'hui? Il n'y a pas d'hymne à la gloire. Il n'y a pas d'hymne à la joie. Parce que c'est plus ça, c'est l'hymne à la joie. Hein. Voilà, donc c'est de ça qu'il faut qu'on débatte. Donc j'ouvre le prochain débat sur comment dire, l'Europe. Parce que là, il faut vraiment qu'on crève l'abcès. Je pense que je suis un militant qui dit clairement. Alors, j'ai vu que très récemment, hein, et c'est un bon militant, hein, Raoul Marc Génard, hein, qui écrit, et je suis d'accord, mais moi, je reviendrai après, moi, ce que je dirais essentiellement, c'est que on ne peut pas dire qu'il y a une dérive de l'Europe. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, ok pour que des copains disent aujourd'hui, l'Europe n'est pas réformable. Ok, d'accord. Moi, je dis qu'il faut sortir du carcan. Voilà. Clairement, je le dis, en tant que militant communiste, je pense que l'idée d'une Europe sociale, c'est un leurre. Voilà. Et ça, c'est le vrai débat qu'on doit avoir entre nous, entre militants, parce que c'est ce qui est dans les têtes. Et il faut qu'on arrive à travailler là-dessus, avec l'ensemble des militants révolutionnaires, l'ensemble des militants communistes, et puis tout seul et tous ceux qui considèrent qu'il faut d'abord abattre pour construire autre chose. Je pense que c'est ça le vrai débat. Passez-moi, je le place à ce niveau-là. Ça n'a pas été dit encore. Il y a une belle manifestation qui va être organisée le 30. Logiquement, j'y vais. Mais de toute façon, j'appelle à aller à cette manifestation le 30. Voilà. Parce que je crois qu'il faut vraiment en sortir. Voilà. Pour clarifier les choses. Après, je viendrai sur pourquoi... Sur les origines de l'Europe, sur les origines de la mondialisation. La mondialisation, c'est pas 90, c'est pas 80, c'est bien avant. Et pour ça, il faut relire Lénine. Ça a été dit, hein, par Guillaume. Il faut dire que je lui dis aussi de temps en temps. Hein. Mais franchement, relire l'impérialisme, le statut suprême du capitalisme, quand vous lisez ça, quand vous l'avez en main, vous comprenez tout ce qui se passe. Nous sommes dans une phase nouvelle de l'impérialisme. On appelle ça la globalisation. Mais on est toujours quand même dans une mondialisation qui porte un nom, c'est une mondialisation capitaliste. On aura tout à l'heure, je vois Saïd, que je salue d'ailleurs, hein, Et d'abord, moi, je suis très heureux des invités. Marianne, elle est membre du Parti communiste, hein, je vous le dis, section d'Arras. Donc, merci des travaux qu'elle fait. Et donc, voilà. Donc, il y a plein de copains qui ne sont pas membres du parti. Je ne vous fais pas d'appel à l'adhésion. C'est pas l'objet, d'ailleurs. Mais moi, je veux vraiment qu'on pousse le vrai débat. C'est quoi aujourd'hui la question de l'Europe? Comment on fait pour sortir les peuples de ces questions-là? Donc, voilà, je redis ce que j'ai dit au départ. Je pense que sur ces questions-là, le PC, le Parti communiste, le bien. Et personne ne me fera quitter le PC, hein, je vous le dis. Hein. Ça, ne croyez surtout pas à ça. Ça ferait trop plaisir à certains. Donc je reste. Et je me bats à l'intérieur. Je suis très respectueux, moi, des règles de vie de mon parti. Un congrès, c'est un congrès. J'ai à dire des choses, je le dis. Là, c'est un débat. Bon, on va débattre. Mais il est important qu'on ait ce cadre-là, entre nous, et qu'on se dise des choses. Après, ben, on débat et on vous laisse un maximum la parole. Parce que là, je me rends compte que je parle beaucoup.
Merci, merci Hervé. Donc, on va juste refaire un petit tour, puisque la transition est toute trouvée. Et ensuite, effectivement, l'intérêt, c'est qu'il y a un échange multiple. Et je sais que Raoul et le PTB, vous avez beaucoup de choses à dire aussi sur la question européenne. Tu faisais le portrait rapide de Schuman, on pourrait faire celui de Monnet, hein, qui est le co-fondateur de l'Union Européenne. Alors Monnet, c'est un homme absolument extraordinaire, français à la base, mais qui part à Londres, qui va s'installer ensuite aux États-Unis, qui crée une banque d'investissement aux États-Unis, qui est un agent de la CIA, qui part ensuite en Afrique du Nord, rejoindre le commandant Giraud pour contrecarrer De Gaulle et la vision, voilà, on veut empêcher De Gaulle de revenir au pouvoir en France. Et puis Monnet ne s'est jamais caché qu'il était l'agent américain pour venir construire une vaste zone de libre-échange sur le continent européen et où disparaîtraient les nations. Le projet est très clair, Monnet l'assume très clairement. Tu l'as rappelé, Schuman est dans la même logique. Alors, dès le départ, l'Union européenne, on sait ce que c'est. Pourtant, on nous a vendu ça comme étant le rêve américain, si je puis dire, ce qui nous permettrait d'instaurer une paix durable en Europe, alors qu'au final, c'est pas anodin que, par exemple, l'Union européenne commence sa création avec la CECA. Donc, je pense que, voilà, Raoul, peut-être, a beaucoup de choses à nous dire sur cette question, donc je lui donne tout de suite la parole.
Ben voilà, je crois qu'on va, dans large mesure, converger au niveau des analyses. Je pense que dans la gauche, et plus particulièrement dans la gauche communiste, il y a un débat sur la nature fondamentale de l'Union européenne. Nous, on n'a jamais caché au niveau du PTB que notre analyse était, non seulement qu'elle n'était pas réformable, mais pourquoi elle n'est pas réformable, c'est qu'on fait l'analyse que, dès les textes fondateurs de l'Union européenne, on est en présence des quatre libertés, les fameuses quatre libertés fondatrices de l'Union européenne, circulation des capitaux, circulation des travailleurs, circulation des marchandises. Et dès le départ, le but d'une bourgeoisie européenne en devenir était de créer un marché homogène au sein de l'Union européenne où les capitaux, les marchandises, les travailleurs pourraient circuler à merci pour pouvoir créer réellement ce marché international, ce marché supranational. En fait, on fait l'analyse qu'on a un peu dans le même type de démarche que l'unification des États-nations que Marx décrit très bien comme étant, je veux dire, à un moment donné, cet éparpillement de la féodalité qu'il a fallu à un moment donné rassembler, centraliser dans des marchés nationaux unifiés, que ce soit au niveau d'une monnaie unique, que ce soit au niveau de l'absence de barrières douanières, que ce soit un marché unique, on est réellement dans une bourgeoisie. Mais fatalement, la seule bourgeoisie qui avait intérêt à créer un marché européen était celle qui pouvait produire à l'échelle européenne. Et on parle évidemment alors des multinationales européennes qui elles-mêmes, donc dans une bourgeoisie européenne en devenir, les seules qui ont pu donner cette impulsion et qui aujourd'hui encore sont à la base de la création de l'État supranational européen, selon nous, ce sont les multinationales européennes, Business Europe, c'est-à-dire en gros les grosses entreprises, les Volvo, les Philips, etc., etc. Et donc fatalement, il y a parfois des allers-retours parce que ça peut aller à l'encontre d'intérêts divergents avec des bourgeoisies qui opèrent encore au niveau national, il y en a de moins en moins. Il y en a eu dans les années 70-80, bon je ne vais pas revenir sur tous les... Là, je ouvre tout un gros débat national français sur la politique de Gaulle, etc. Bon, on va pas ouvrir tout de suite ici, mais en tout cas, bon, on va s'accorder que c'était pas un communiste. Hein, je crois qu'on est d'accord, en tout cas, là-dessus. Et qu'en tout cas, donc, visiblement, il y avait des contradictions, en tout cas, entre peut-être certaines parties d'une bourgeoisie européenne qui était encore pour un État-nation plus fort et des parties de la bourgeoisie française qui avaient déjà fait l'option de l'État supranational. Je dis pourquoi, je prends explicitement l'exemple français, parce que chez nous en Belgique, on a assez peu vu le marché très petit qui existe en Belgique. Notre bourgeoisie nationale était très très fortement demandeuse d'une intégration totale européenne. Déjà, à l'état de l'état-nation belge, à l'époque déjà, on était déjà à 65-70% d'exportation, je veux dire, en Belgique, normal, petit pays. Donc je veux dire, on était déjà dans ce genre de situation-là. Deuxième élément important dans cette analyse, pour nous, c'est que les bourgeoisies européennes, globalement, ont toutes été actrices de la création de cet État supranational européen. On peut très peu parler d'États-nations qui ont été opprimées par une autre bourgeoisie. Je fais une exception de certains pays du Sud, on pourra avoir un débat avec nos camarades grecs, nos camarades portugais, et encore, je veux dire, aller déceler les partis de la bourgeoisie portugaise qui n'étaient pas pour l'Union européenne en construction, faut les trouver. Mais en tout cas, il y a une moyenne bourgeoisie qui était peut-être dans le cadre de la révolution des œillets, enfin, je n'ouvre pas tout le débat difficile au niveau du Portugal, mais en tout cas, pour ce qui est pour nous de la Belgique, et nous pensons que ça vaut pour tous les pays fondateurs de l'Union européenne, globalement, on a une bourgeoisie, celle des multinationales, qui est demandeuse de la création de cet État supranational. Et donc, à ce titre-là, on peut très difficilement parler d'une oppression nationale, vu que nos propres bourgeoisies sont demandeuses, constructives de cet État supranational. Je sais que c'est un débat dans la gauche communiste, mais comme ça, je vous dis un peu globalement nos thèses, comme ça, on peut au moins, autour du pot, tout à l'heure, ce soir, refaire le monde sur des questions qui sont très complexes. Hein. Donc, on prétend vraiment pas qu'on a toute la vérité en la matière. Lié à ça, donc, une Union européenne non réformable, se pose alors la troisième question qu'on a eue chez nous à le parti. C'est la question de savoir est-ce qu'il y a une étape intermédiaire qui est celle de demander le retrait de l'Union européenne sur une base nationale. Je dois vous avouer que chez nous, c'est toujours un débat très vif dans le parti. En tout cas, on est plutôt dans une option politique de dire non. Non, il y a un État supranational qui est en fin de formation. On a une bourgeoisie européenne qui est en train de se former. Et on a aussi une classe ouvrière européenne qui se forme. Mais par contre, ça fait, on a 25, 30, 35 ans de retard avec cette collaboration qui n'est pas qu'une collaboration internationale altruiste, mais qui est une collaboration directe parce que les méthodes de production sont devenues européennes dans les grandes entreprises. Nous sommes un parti qui a relativement peu développé ses contacts en Europe, par exemple, jusqu'à il y a 6-7 ans, et on a tiré la conclusion que c'était une erreur. Que c'était une erreur, qu'on était trop replié sur notre propre pays, qu'en fait, nos luttes directes aujourd'hui, nos luttes partielles dans notre pays étaient directement dépendantes du rapport de force de nos camarades français, de nos camarades espagnols, nos camarades grecs, nos camarades même polonais et roumains, parce que beaucoup d'entreprises chez nous sont dans ce rapport-là. Et que donc, plutôt que de se dire, ouais, on va pouvoir faire un repli, je veux dire, sur la Belgique et de là, mieux miner l'Union européenne, on a tiré la conclusion de dire non, non. On doit pouvoir rechercher des contacts avec tous les camarades en Europe pour pouvoir mieux mener ensemble un combat dans notre diversité. Mais cette diversité existait aussi au niveau des États-nations. Vous savez, nous, on vient d'un pays assez complexe sur la question nationale. C'est-à-dire qu'on a les Bruxellois, on a les Flamands, on a les Wallons. Il y a une classe ouvrière belge, mais il y a des états de conscience, des états, des cultures qui peuvent partiellement être différentes. Et pourtant, dès le départ, le mouvement communiste en Belgique a mis comme défi de pouvoir rester dans un seul pays, le parti communiste. C'est la raison pour laquelle, avec le PTB, on est le dernier parti à rester national. Pourquoi? Parce que on se dit que notre repli régional, alors vous avez peut-être rigolé en France, mais chez nous, il y a des tendances fortes dans la gauche belge qui veut un repli régional en Wallonie. Pourquoi? Parce que la Flandre étant plus à droite, on se dit, on va se replier sur la Wallonie. Comme ça, là, on aura le rapport de force en Wallonie. Et de là, on va mieux combattre l'Europe. Donc, je veux dire, ça a des engagements très concrets. Donc, vous voyez comment les questions nationales et régionales, en fonction des histoires des différents pays, peuvent mener quand même à du repli sur soi de gauche. Je ne dis pas que c'est du repli de droite, c'est du repli de gauche. Et je pense que là, de ce côté-là, on a pour nous, plutôt dans l'analyse, l'idée de dire qu'il faut collaborer beaucoup plus au niveau international, mais sur une base d'une analyse que cette Union européenne n'est pas réformable. Et là, c'est la difficulté, parce que la plupart des mouvements internationaux au niveau de l'Europe, je ne veux pas les nommer, etc., mais en tout cas, sont plutôt dans une phase d'intégration de l'Union européenne. Donc, on est dans une complexité de pouvoir mener de plus en plus de contacts avec beaucoup de partis, et donc ça, c'est ce que nous faisons maintenant depuis 5-6 ans avec le PTB, c'est de discuter avec tous les partis, même si on peut avoir des divergences, même si on peut avoir des opinions différentes, mais en tout cas de vraiment tendre la main à tous les partis qui se revendiquent d'une gauche anticapitaliste pour pouvoir avoir un débat. Ça ne nous empêche pas nous-mêmes d'avoir nos avis à nous, c'est le but aussi de pouvoir les exposer, mais dans le respect mutuel des différentes composantes en Europe. Je crois que ça c'est important, vous savez. Et je vais finir par là, je suis déjà trop long comme Hervé, hein, mais ça c'est quand on nous donne les micros à nous, ça va pas du tout là. Mais nous, le PTB est d'origine, comme ça je vais le dire tout de suite, hein, c'est plutôt le mouvement 68ard pro-Pékin. Hein, vous nous situez un petit peu, vous avez Moscou, vous avez Pékin, vous voyez un petit peu les deux capitales, hein, c'est ça. Et donc, on vient un peu d'un courant qui se dit, ouais, on a raison, on va montrer à tout le monde comment il faut faire et tout, vous savez, nos relations avec le Parti communiste belge, à l'époque, c'était pas la haute voltige. Et là, ça fait 10 ans qu'on se dit, oh, mollo, les gars, je vais dire, un peu plus d'humilité, la question d'apprendre à avoir des contacts avec tout le monde, ne pas se dire qu'on a toute la vérité, la situation mondiale est très complexe, mais les débats doivent pouvoir se faire sur des principes clairs, des principes anti-impérialistes. Et je crois que c'est cet équilibre-là qu'on doit pouvoir trouver en Europe. C'est l'une des raisons pour laquelle aussi les relations se réchauffent avec les différents partis, je veux dire, en France, différentes fédérations aussi, hein, parce qu'il y a parfois des petits accents différents, je ne vais pas dire plus, mais l'accent du Nord n'est pas la même chose que l'accent de Marseille. Là, je reste dans la linguistique, là, hein, je ne me prononce pas politiquement, j'ai Hervé, je ne vais pas te foutre dans la merde, mais voilà, donc c'est pour ça que ça fait plaisir d'être ici pour pouvoir causer justement de cette question européenne qui est très très importante. Et en tout cas, c'est ensemble que la classe ouvrière européenne va pouvoir mener son combat contre la superstructure européenne et contre cette bourgeoisie européenne dont le seul but, ça c'est clair, c'est de faire trimer les ouvriers pour extorquer la plus-value, non plus uniquement à l'échelle nationale, mais à l'échelle supranationale. Voilà, je vous remercie.
Oui, je voudrais dire deux mots sur Moscou et Pékin. Il se trouve que je suis non seulement professeur de russe, mais professeur de chinois, et j'ai vécu en Chine pendant 2 ans. J'y suis allée au lendemain de la révolution culturelle, donc c'est un pays que je suis depuis longtemps. Mais pourquoi je vais en parler? C'est à cause du Parti communiste russe. Le Parti communiste russe a une convention avec le Parti communiste chinois depuis de longues années, et ils se rencontrent environ 2 ou 3 fois par an. Et ils ont actuellement une construction commune de leur idéologie. Donc on voit qu'on est très très loin des divergences Moscou-Pékin qui ont pu exister à une certaine époque, et ça c'est très important. Bon, je ne vais pas approfondir, je voudrais juste faire 2-3 petites mises au point sur ce qui a été dit sur l'Ukraine. C'est pas pour retourner en arrière, mais pour que ce soit clair, je pense que ça intéresse les gens, savoir par exemple d'où vient le mot oligarque. Ces oligarques, ce sont les gens qui ont pillé la propriété publique, la propriété socialisée de l'URSS dans les années 90. Donc ce sont entièrement des voleurs. Ce sont des gens qui sont partis de rien, mais qui étaient des dirigeants du Komsomol, c'est-à-dire des jeunesses communistes ou du Parti communiste. Donc quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une immense majorité des gens qui regrettent l'Union soviétique dans l'ex-URSS, ils ont en même temps une très grande méfiance vis-à-vis du Parti communiste, parce que c'est le Parti communiste qui les a mis dans la merde. Donc, tout ça est extrêmement complexe, mais les oligarques, c'est justement ça. C'est-à-dire que quand on a décidé de faire la privatisation de toute la propriété dans les années 90, on a donné à tous les travailleurs des actions. Je sais pas, disons 10 € chacun, quoi. Après, ils pouvaient rien en faire. Et les petits malins ont raflé la mise et sont devenus des milliardaires, des super milliardaires au niveau mondial. Mais ils sont d'une part très liés à des mafias, à la corruption, et liés aussi à la bourgeoisie internationale. Donc, ils n'ont absolument aucune indépendance. Donc, ça, c'est les oligarches. Pour parler de Yanukovych, quand il a refusé, il a hésité. Le partenariat européen, en fait, il a pensé à ses électeurs, qui étaient un électorat populaire, et il était clair que entrer dans l'Union européenne signifiait une désertification industrielle et agricole absolument dramatique pour le pays. Donc, quand Yanukovych a fait ça, même si bon, je n'ai aucune admiration pour cet homme politique, c'était peut-être un sursaut de sa conscience. Sur le Maïdan qu'on appelait l'Euro-Maïdan, en fait c'était le Maïdan pour l'Europe, moi personnellement j'ai des doutes énormes que des centaines de milliers de personnes se réunissent pour demander l'Union européenne, enfin, franchement je comprends pas. Et il y a de toute façon des témoignages montrant que, bon, bien sûr, il y avait une immense colère populaire, ça c'est vrai. Mais dès les débuts du Maïdan, il y a eu un filtrage des manifestants avec les centuries, il y avait les chefs de 10, les chefs de 100, etc. C'était organisé comme chez les Romains, là. Et tous les mouvements de gauche étaient quasiment interdits de parole et ils se faisaient même casser la gueule. Il y a quelques anarchistes qui ont essayé de pénétrer, ben, ils se sont bien vite rendu compte que c'était encore une révolution de couleurs qui était imposée par l'extérieur. Ensuite, sur la position de Poutine, les communistes russes, par rapport à Poutine, ben, ils sont à 50-50, quoi. C'est-à-dire qu'ils approuvent, je pense même à 100%, la politique extérieure de Poutine. Et je pense qu'ils refusent à 100% sa politique intérieure. Et leur discours des communistes, c'est que la position actuelle internationale de la Russie et de Poutine, elle est excellente, mais que s'il veut continuer dans cette voie, il faut qu'il change totalement sa politique intérieure, parce qu'économiquement, il ne pourra pas tenir. Ensuite, sur les BRICS, ben, je pense qu'il y a quand même une dimension, dans, je ne parle pas de chacun des pays individuellement, mais dans la démarche, d'éminemment progressistes et d'éminemment pacifistes, parce que ce qu'ils font, c'est de la construction, c'est une coopération, je pense, dans l'intérêt du développement et non pas dans l'intérêt d'une imposition d'un pays sur un autre, de rapine ou quoi que ce soit. C'est-à-dire ça a quand même une dimension, à mon avis, anti-impérialiste.
Ouais, d'abord, je rebondis d'abord peut-être tout de suite sur ce que Hervé évoquait le 30, hein, pour dire qu'effectivement, moi j'appartiens à une organisation, mais c'est même pas une question d'organisation, c'est une question d'individu, de courant, de militant. C'est un débat au sein du mouvement communiste, finalement, cette question de l'Union européenne et sur la façon dont comment on réagit, qu'est-ce qu'on met en avant. Je disais, je fais partie des organisateurs d'une manifestation qui aura lieu le 30 mai à Paris, devant l'Assemblée nationale, tout simplement parce qu'on est cette année le 10e anniversaire de la victoire du peuple lors du référendum du 29 mai 2005, on s'en souvient. Tous les médias, tous les grands partis politiques de la bourgeoisie, toutes les forces, y compris syndicales, réformistes, et même parmi celles qui ne sont pas réformistes, il a fallu un sacré débat en leur sein pour que le nom l'emporte, hein, on se souvient des débats à l'époque. Voilà, c'était la force des petits, c'était vraiment un nom de classe qui s'est exprimé contre tout l'appareil médiatico-politique qui s'est exprimé en faveur du non. Non au traité constitutionnel européen, non finalement à cette nouvelle étape de construction d'un espace politique qui nous en sert et qui crée un carcan contre les peuples. Donc ça nous a paru important et essentiel de se dire que voilà, 10 ans après, il faut non pas qu'on vienne commémorer, mais qu'on vienne fêter, célébrer et dire encore 10 ans après, il faut qu'on continue ce combat-là. Qu'il faut qu'on puisse continuer ce combat-là. Et c'est pour ça qu'il y a un appel à une manifestation devant l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon, le samedi 30 mai, avec un bus qui sera organisé. Il y a déjà un bus qui part de Lille et de Lens le 30 mai. Donc soyons en contact pour pouvoir aller manifester là-bas. C'est un élément important. Et j'en dis un peu plus, évidemment, sur le fond de cette initiative, pour dire, c'est important de se dire que on ne peut pas se satisfaire, et c'est là le débat, de dire qu'il y a un espace en construction qui se crée des institutions politiques et qu'on ne puisse pas manifester notre non, et y compris pour la sortie de la France de l'Union européenne ou de l'euro. Ça rejoint la discussion que soulève Raoul, bien évidemment, par rapport à ça. C'est-à-dire que, certes, globalement, nous sommes tous d'accord pour dire que, et c'est déjà un progrès, parce que, y compris au sein du mouvement, au sein de la gauche, parfois, cette idée-là, elle est très forte, qu'on pourrait construire une Europe sociale. Je pense que ça, aujourd'hui, plus personne n'y croit, y compris des personnes qui y croyaient il y a 10 ans, n'y croient plus. Tu faisais allusion, Hervé, à Raoul Marc Génard, hein, l'un de ceux qui avait beaucoup milité à l'époque pour le non, qui aujourd'hui annonce clairement que l'Europe n'est pas réformable. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fait le tour de la question. Il est nécessaire de se dire qu'est-ce qu'on fait du point de vue du mouvement ouvrier pour mettre des bâtons dans les roues, si je puis dire, dans les plans stratégiques de la bourgeoisie. Il est certain que la bourgeoisie ou les bourgeoisies européennes sont plus fortes quand elles sont coalisées, quand elles sont ensemble. Tout simplement parce qu'on est en train de bâtir un espace qui n'est pas accessible, un espace non démocratique, qui n'est pas accessible à nous, ici, citoyens, travailleurs de France. L'espace où s'exprime la vie politique, c'est l'espace national, aujourd'hui. L'espace des manifestations, l'espace des revendications, l'espace du code du travail, là où c'est construit, là où il s'exprime. Et on bâtit justement un espace européen qui vise à détricoter ça. Où, bien sûr, c'est des décrets, c'est des directives, c'est comme ça qu'on les appelle à l'échelle européenne, des directives européennes qui visent au nom de l'Europe, c'est ça qui détricote notre droit national, qui détricote tous les acquis sociaux qui ont été gagnés dans chaque pays, au demeurant. Il n'y a pas que la France qui a eu des acquis sociaux. Chaque pays a bâti des acquis sociaux avec des degrés différents en fonction des luttes sociales dans un cadre national. Et aujourd'hui, l'instrument européen, avec un argument bâton idéologique, hein, qui est, bien sûr, il faut construire l'Europe pour préserver la paix, soi-disant, c'est ça qu'on nous met en avant, pour nous empêcher idéologiquement de mener ce combat contre ces instruments que le capital s'est donné pour être plus fort. On nous bâtit des directives pour tout détricoter. Aujourd'hui, le capital est plus fort quand ils sont coalisés ensemble à l'échelle européenne. Faisons en sorte qu'il soit plus faible en le divisant. Faisons en sorte... C'est pour ça que mener le combat pour le non à l'Union européenne, y compris pour le retrait de la France de l'Union européenne, est un élément essentiel pour contrebalancer les plans du capital. Non pas que c'est de croire que forcément une France capitaliste sera forcément mieux si elle est isolée, mais c'est pas la question, en quelque sorte. C'est la question de voir qu'aujourd'hui, les forces dominantes de la bourgeoisie française sont complètement liées à ce besoin d'avoir cet espace Union européenne dans lequel elle est plus forte, dans lequel elle peut aujourd'hui resserrer ou enfermer finalement nos luttes et nos revendications. Qu'est-ce qu'on met en avant contre ça aujourd'hui? C'est ça qui est important. Cet espace antidémocratique, il faut qu'on cherche à le briser par rapport à ça. Ça peut être une des voies de la révolution en France, dans ce pays. Parce qu'on sait, on sait très bien, à un moment donné, la révolution, elle se fait de différentes façons. Hein. On sait, je veux dire, en 1917, on faisait la révolution pour le pain, la terre, la paix. Lénine disait, analysant la situation française au moment de l'affaire Dreyfus, dans un de ses écrits, il dit que l'affaire Dreyfus aurait pu naître la révolution en France. À tel point que, donc, une question qui n'était pas une question strictement économique, qui concernait la lutte de la classe ouvrière contre la bourgeoisie, qui concernait la question de droit démocratique, où il y avait d'ailleurs une division au sein de la bourgeoisie par rapport à ça, où la petite bourgeoisie qui prenait défense de cet officier qui était injustement accusé de trahison, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, y compris des questions politiques comme celle-là, qui créent un clivage, peuvent être une des voies par lesquelles, y compris le mouvement ouvrier, s'il sait s'emparer intelligemment de ces questions, il peut avancer et marquer des points. Moi, je dis que aujourd'hui, face au mécontentement profond que nous ressentons et que ressentent les travailleurs face à l'Union européenne, face à l'euro y compris, par rapport à ça, c'est mettre en avant, dans un esprit internationaliste bien évidemment, cette volonté de mettre fin à ce carcan, de nous sauver, de sortir de l'Union européenne pour s'en sortir, en quelque sorte, c'est peut-être une des voies vers la libération nationale et sociale. On ne sait jamais comment les combats ils commencent, on ne sait jamais comment ils finissent par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est essentiel de pouvoir poser cette question-là. Alors, et c'est important de le faire de façon internationaliste, justement. Dans l'internationalisme, il y a nation, ce n'est pas la négation de l'existence de spécificités nationales, bien évidemment. Et si tous les peuples et toutes les classes ouvrières de France, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, des Pays-Bas, de Belgique, avec la particularité, c'est vrai, du fait que la Belgique est déjà en elle-même un État multinational, quelque part, pouvaient se tenir la main, se serrer la coude et mener un combat commun pour la dissolution de l'Union européenne et pour briser ce carcan qui aujourd'hui nous empêche d'avancer, ce serait un pas en avant. C'est clairement les différentes bourgeoisies nationales qui ont besoin de cet espace. Ils ont besoin, même s'ils ont des contradictions entre eux, c'est ça la particularité. Je ne pense pas qu'il y a vraiment... Tu parles de bourgeoisie européenne en construction, mais alors là, vraiment en construction. Parce qu'en réalité, ils sont unis entre eux, mais ils sont unis dans une logique de concurrence. Hein, c'est qui va être le plus fort, qui va pouvoir placer d'abord les intérêts de la bourgeoisie allemande au détriment des parts de marché de ses alliés concurrents. Et c'est, regardez les positions du Front National, par exemple, qui... Le Front National, c'est typiquement les positions de la bourgeoisie française qui voudrait supplanter la bourgeoisie allemande, c'est-à-dire dire bourgeoisie moyenne française. Actuellement, non. Effectivement. Parce que les forces dominantes politiques du capital n'ont pas encore épuisé leur potentialité aussi, et même d'un point de vue économique. Les grandes multinationales et la grande bourgeoisie, effectivement, n'est pas tant derrière le Front National, même si certains secteurs le sont. Après, c'est toujours la question. Vous savez, il y a la bourgeoisie qui travaille dans des secteurs du capital, qui sont des secteurs plus protégés que d'autres, qui ont besoin plus de protection douanière. D'autres ont moins besoin de protection. Ils ont besoin d'un espace plus grand. Il faudrait examiner, on le dit rapidement, simplement, on pourrait dire qu'il faudrait qu'on examine d'un point de vue économique beaucoup plus finement. Comme nos anciens savaient le faire, parce que des fois on prend moins de temps par rapport à ça, pour voir secteur par secteur quels sont les intérêts des différents possesseurs de capitaux, finalement, en fonction des secteurs dans lesquels ils travaillent, pour voir un petit peu comment ils se positionnent, y compris par rapport à ça. Ça nous aiderait, ça nous armerait pour être plus forts, pour revendiquer dans l'intérêt des travailleurs. Je suis un petit peu long, excusez-moi.
Alors, je te cède tout de suite la parole, Hervé, mais Raoul voulait intervenir.
Ouais, vraiment très bref, comme on est vraiment en plein dans ce débat de la gauche anticapitaliste et révolutionnaire, qui est assez complexe sur les étapes. Tout à l'heure, on a vite dit que beaucoup de forces de gauche étaient d'accord avec le fait que l'Union européenne n'était pas réformable. Moi, je pense qu'on est... Globalement, en Europe, c'est pas les forces dominantes, y compris dans la gauche de gauche. Hein, je veux dire... Oui, ok, ici, mais je veux dire, malheureusement, on n'est pas encore toute l'Europe ici. Je veux dire, on doit être un peu réaliste dans le débat à avoir. Et on n'est pas ici dans le petit débat, le petit mot d'ordre d'agitation. Hein. On peut vite dire dans une manif, ouais, l'Union européenne n'est pas réformable. Non, le débat, c'est faut-il un changement qualitatif de l'Union européenne. Et là, je pense que dans les forces, même de la gauche de gauche, ceux qui sont dans cette grille d'analyse sont assez minoritaires pour l'instant. Mais voilà, vous savez très bien qu'au niveau du parti de la gauche européenne, il y a plus de débat justement de ce rapport à l'institution européenne. Le courant dominant est plutôt de croire dans une intégration. Et je suis plutôt de ceux qui ne croient pas dans l'intégration, pas sur une base nationale, mais sur une base capital-travail. Hein, je veux dire, en gros, si on comprend un peu ce que je veux dire. Donc ça, c'est un. Deux, vu que tu parlais un peu sur la France, ça m'intéresse effectivement d'avoir l'analyse de classe, par exemple, de qui soutient le Front National. J'ai l'impression, de peu d'éléments que nous avons en Belgique, que la grande bourgeoisie française ne soutient pas encore l'option Front National. Pourquoi ? Parce qu'elle-même est complètement dans l'intégration européenne. Et ce n'est pas les petites escarmouches entre François Hollande et Merkel qui enlèvent la question que la bourgeoisie française a décidé elle-même, je parle bien de la bourgeoisie multinationale, de complètement construire l'Europe. Elle n'est pas du tout dominée par l'Allemagne. Je veux dire, ça, c'est un des débats qu'on a. Je veux dire, nous ne ressentons aucune domination, tout comme la bourgeoisie belge. Vous savez, ici, vous allez boire un petit verre. On a été boire un petit verre au PMU du coin juste avant d'arriver. On a bu quoi ? On a bu de la Stella là-bas. On a bu de la Lef. On a bu quoi ? On a bu InBev. Alors InBev, c'est Jupy, c'est à Liège, c'est chez nous. C'est une multinationale belge, une des seules qui a réussi au niveau européen. Elle domine l'Europe. Je veux dire, la bourgeoisie belge, je parle à sa grande bourgeoisie, je parle pas du petit brasseur du coin, on en a plus chez nous, ils ont tous été bouffés, mais on a peut-être quelques-uns qui font un peu de la culture bio ou quoi, etc. Mais je veux dire, les brasseurs belges ont été concentrés dans trois brasseurs qui contrôlent 100% dans le marché national. Et là, il y a une bourgeoisie qui a réussi à se hisser au niveau européen, c'est InBev. Eh bien, InBev est demandeur de l'intégration européenne pour aller chercher les marchés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez à la Côte d'Azur, vous allez boire une lèvre, quoi. Je veux dire, donc j'essaie d'expliquer que les bourgeoisies qui ont gagné, donc où je suis d'accord, là il y a une analyse à mon avis à voir, c'est au niveau des bourgeoisies moyennes, qui dépendent encore en partie du marché national. Là, je crois qu'il y a pas mal de débats politiques actuellement sur l'option à suivre. Donc on parle bien des bourgeoisies non monopolistiques, si on reprend Lénine, mais comme vous le savez, les bourgeoisies non monopolistiques n'ont pas beaucoup à dire sur ce que faisaient les États nationaux à l'étape de Lénine, et pas beaucoup à dire sur ce que font les États supranationaux en 2015. Hein, je veux dire, donc c'est les bourgeoisies monopolistiques qui donnent le ton. Et les bourgeoisies monopolistiques européennes, c'est-à-dire françaises, allemandes, belges, ces bourgeoisies-là sont demandeuses une intégration. Et alors, un dernier élément, c'est que tu as raison de dire que aujourd'hui, ça les affaiblirait de ne pas avoir l'espace européen, mais économiquement, ils sont déjà fusionnés. Économiquement, les modes de production en sidérurgie, les modes de production dans l'automobile, dans les brasseries, enfin, les brasseries, normalement, donc, vous savez que le cercle de distribution d'une brasserie, normalement, c'est 200 km. On produit de la bière à l'échelle aujourd'hui de tout le sous-continent, et ce n'était pas le cas à l'époque de Lénine. Il y avait quelques secteurs qui étaient dans une exportation de capitaux. Donc à l'époque, on est dans une exportation de capitaux dont Lénine parlait, mais ici, on est dans une intégration économique même, de la production même. Et donc ce qui fait qu'à mon avis, et je suis d'accord qu'on n'y est pas encore arrivé complètement, mais la formation de l'État supranational et d'une bourgeoisie européenne, et donc d'une classe ouvrière européenne, parce que c'est bien de ça qu'on parle, est en formation aujourd'hui. Et donc nous préférons plutôt dire, vu que le sens de l'histoire va vers la formation d'États supranationaux, tout comme à l'époque de Lénine, le sens de l'histoire allait dans la formation d'États nationaux, allons dans le sens de l'histoire et créons la classe ouvrière européenne, avec sa conscience de classe européenne révolutionnaire, et donc son parti multinational, les gars, là on est pour 25-30 ans, hein, on n'est pas tout de suite, mais un parti européen, mais alors sur une base révolutionnaire.
Avec Raoul, je ne suis pas du tout d'accord là. Mais bon... sur plusieurs points. L'Allemagne. Il va falloir boire, ouais, après on buvra une paire de bière quand même. D'abord sur l'Allemagne, je pense qu'il y a un véritable débat. Et qu'est-ce que l'Allemagne? D'abord, moi je fais partie de ceux qui disent que l'Allemagne réunifiée est réunifiée par une annexion. D'abord, je pense que c'est important de le dire et de le rappeler et de le souligner. Parce que si on ne part pas de cette analyse-là, on ne comprend pas grand-chose. Et l'Allemagne n'est plus la même Allemagne aujourd'hui. C'est une Allemagne continentale. Et moi, je ne sais pas ce que veut faire l'Allemagne. Je ne sais pas ce que veut faire la bourgeoisie allemande. Elle se... Sans doute, c'est mon analyse, peut-être que je me trompe. Hein. Là, j'ouvre un débat qui démarre, d'ailleurs. Parce qu'on est au début de quelque chose. C'est-à-dire que moi, je pense... que l'Allemagne est sans doute en train de se détourner de l'Occident. Parce que le marché, les Allemands, ils sont expansionnistes, hein, j'ai pas tout compris. Et le marché, c'est l'Eurasie. Donc, il y a des choses, à mon avis, à analyser. Voilà, ça c'est la première chose sur ce qu'est l'Allemagne aujourd'hui. Mais je ne sais pas ce qu'ils vont choisir au bout du compte. Ce que vont choisir les bourgeois, les tenants du pouvoir. Ça, c'est une première chose. Moi, je voudrais revenir sur, donc, l'Europe. J'ai parlé tout à l'heure du 9 mai 1950. Le choix de la date n'est pas un hasard, c'est un choix idéologique. Mais moi, je crois que, y compris... parce qu'on a un double mythe. Celui de l'Europe, né en 1950, par une déclaration de Schuman. Moi, je crois que les fondements de l'Europe du capital sont bien plus anciens qu'on nous le dit. Et sur ce point, je rejoins ce que dit fort bien et bien mieux que moi Annie Lacroix-Riz. Je crois quand même qu'on doit regarder ce qu'a été la cartélisation des groupes de l'acier et du charbon. Et c'est avant, c'est 1926 quand même. Donc c'est important de l'avoir en tête. Donc, y compris quand je parle de l'Allemagne et de la France, bien évidemment, de fait, je parle de la Belgique. Hein, on est bien d'accord. Et je crois que quand on parle d'Europe, on doit connaître ce que c'est que le bassin mosellan. La Moselle, la Meurthe et Moselle, la bataille de Sedan, ce que dit Napoléon III en 1856. Conférence de Paris, quand il dit quand on parle d'Europe, on parle pas d'Europe, on parle d'Allemagne. 1856. Hein? Donc c'est important de l'avoir en tête parce que quand la France perd face à Bismarck, on lui prend une partie du bassin mosellan, mais Mais ça, c'est en 1871. 1810 ans plus tard, on découvre en France, en Meurthe-et-Moselle, parce que c'est resté français là, des bassins ferrifères très beaucoup d'oxyde. Mais les guerres aujourd'hui, ce sont des guerres de matières premières. L'Ukraine, l'Irak, ça existait avant que ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas des guerres, c'est des nouvelles guerres d'Irak, des nouvelles guerres d'Ukraine. Voilà, c'est, on répète. Ben, on est dans ce que Lénine nous explique. C'est pour ça que c'est important de relire Lénine, au moins sur cette question-là, si on n'est pas dogmatique. C'est du partage et du repartage. C'est pas autre chose. Donc ça, c'est, si on n'analyse pas les choses de ce qu'on vit aujourd'hui à ce titre-là, à ce niveau-là, on comprend rien, on peut rien comprendre. Donc moi, j'insiste sur cette question de ce qui se passe aujourd'hui. C'est, on nous vend un film. Non, l'Europe, c'est bien plus ancien qu'on nous le dit. Y compris la mondialisation. La mondialisation, quand même. Je rappelle une chose, la première crise structurelle du capitalisme, elle date de 1873. Elle vient juste après la ruée vers l'or, elle vient juste après le financement d'une banque. Je vais vous donner un exemple, la banque Lazare. Heureusement, je suis assez content quand même qu'il y ait un parti communiste, le KKE, en Grèce. Je soutiens Syriza. Mais je dis qu'heureusement qu'il y a le KKE aussi. Parce que le conseiller aujourd'hui de la Grèce, du gouvernement grec, c'est la banque Lazare. C'est quoi Lazare? Il faut quand même dire d'où ils viennent. Lazare, c'est les héritiers de celles et ceux qui ont été qui ont financé les guerres de Charles Quint, qui ont foutu l'Europe à feu et à sang. Les Médicis, etc. C'est ça Lazare. Et Lazare, c'est la fameuse banque américaine, franco-américaine, qui ne sera pas nationalisée en 81. Ah oui, pour regarder. On nationalisera une autre banque. La banque, parce que celle-là, cette banque-là, c'est la Worms. Worms, vous voyez, c'est Sellières, c'est devant d'elle. On revient en Lorraine, vous voyez, hein. Mais on nationalisera un temps très rapide Worms. Worms, banque collaboré. Mais si on regarde, on revient en Lorraine, les devant d'elle, comme l'explique Annick Lacquarise. Quand, Première Guerre mondiale, en 1914, il y a un accord. On ne touche pas aux établissements de Wendel. On ne touche pas. C'est les accords de Briey, on appelle ça. Vous connaissez ici. Mais c'est important de le rappeler. Et donc, tout ce qu'on vit, ce sont des guerres de matières premières. Ce n'est pas autre chose. Donc, c'est notre analyse qu'on doit avoir. Et moi, je pense que fondamentalement, c'est à partir de cela qu'on on doit vraiment démystifier l'Europe et la mondialisation. On est dans une nouvelle phase de la mondialisation, mais la mondialisation capitaliste et l'analyse de Lénine, elle est pertinente. Impérialisme, stade suprême, écrit en 1915, est tout à fait juste. Quand il écrit « Les faits sont têtus », proverbe anglais, c'est d'ailleurs ce qu'il écrit clairement, proverbe anglais, « Les faits sont têtus », on doit absolument analyser en ces termes-là ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'Europe du capital. Moi, j'ai un peu de désaccord avec Raoul là-dessus. Je ne crois pas du tout à la levée d'une classe ouvrière européenne qui puisse demain réformer l'Europe. Je ne crois pas à ça. Moi, je crois qu'il y a besoin d'internationalisme. Il y a besoin qu'on se voit, qu'on boive plus de bière ensemble, ça on a l'habitude, qu'on discute lors de congrès, parce qu'on se fait chier des fois dans les congrès, donc on boit un coup, voilà. C'est comme ça qu'on s'est connus, d'ailleurs, à un congrès du Parti communiste. Il est venu observer un peu les communistes, bon, c'est bien. Et puis on s'est connus comme ça. Mais on a besoin vraiment de débattre de ces questions-là, parce qu'après, on est un peu long, quoi. On va vous donner la parole. Après, on a un autre débat qui ouvre à une autre question, avec il y a Michel qui est là-bas et puis il y a Saïd, sur la question de Charlie. Et là, on va ouvrir un vrai débat, quoi. sur ce qu'on appelle la stratégie de choc, sur est-ce qu'on est dans une guerre de civilisation ou pas. Là, il y a un vrai débat aussi. Et là aussi, il y a des pièges. Le même piège qu'est celui du carcan européen. Je pense que c'est le même piège, d'ailleurs. Donc, moi, je vous invite, je ne sais pas quelle heure c'est prévu, 16h30. Hein. Bon, donc on va vous laisser la parole pendant une demi-heure. Et puis après, je vous invite à rester. Voilà. Et je serai là aussi, d'ailleurs. Hein. Mais pour vraiment continuer à débattre avec Saïd et puis avec Michel. Et d'ailleurs, on va revenir à ce qu'on débat là. Hein. Indirectement, on va revenir à ça. Voilà.
Alors, il y a des prémices de réponse hein, pour le débat suivant sur le choc des civilisations. Et la règle, la séparation éternelle et historique, c'est celle entre le capital et le travail. Et on sent bien l'enfumage avec cette question de crise religieuse. On a brossé beaucoup de choses durant ces différentes interventions. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de questions et d'avis sur tout ce qui a pu être dit. Donc, la parole est libre. Et je vois un doigt qui se lève là-bas.
Bonjour mes camarades. Tout d'abord, Hervé... Je crois que tu as tout à fait raison, selon moi, d'être nostalgique de l'Union soviétique. Ce rôle fondamental qu'elle a joué au XXe siècle, dans nos nombreuses luttes, dans la lutte des peuples dits du tiers-monde, etc. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qui s'est déroulé à l'Union soviétique soit exempt de critique et d'analyse. C'est deux ordres de choses différentes. Mais le rôle fondamental de l'Union soviétique et la nostalgie que nous pouvons partager à cet égard est, je pense, nécessaire. Et en même temps, j'écoute ce que dit Marianne. Aujourd'hui en Russie, à la fois nous avons dans le peuple russe la nostalgie de ce qu'a été l'Union soviétique qui est vécue, et je partage son regard, et en même temps, les difficultés du peuple russe de mettre en place des outils pour participer à la transformation de la société, y compris la méfiance ou la défiance qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de ceux qui s'appellent le Parti communiste de Russie et qui le sont. Là-dessus, j'aurais une question à poser à Marianne, y compris par rapport à l'Ukraine. Dans le cadre de l'enfumage que nous vivons en France sur la question ukrainienne, pourrais-tu dire quelques mots sur le révisionnisme ou le négationnisme qui se passe en Ukraine par rapport aux faits qui sont déroulés durant la Deuxième Guerre mondiale? Maintenant, je voudrais revenir sur la question clé qui est dans ce débat. J'ai entendu plusieurs choses. Tout d'abord, il ne serait pas possible, ça serait même, peut-être ça peut être exprimé comme cela, mais une impasse, d'envisager la création d'une classe ouvrière européenne. Mais c'est un vieux débat qu'a le mouvement ouvrier en 1889. Lorsque d'un côté Belbel et Liebknecht, de l'autre côté, Lafargue et Guède créent la Deuxième Internationale avec l'idée d'avoir une conscience de classe ouvrière dans tout le monde capitaliste, certains disent que c'était impossible. Lorsque Lénine, en 1918, crée le Comintern et la Troisième Internationale avec l'idée d'essaimer à partir de l'expérience russe de la révolution d'octobre et à partir de ce qui s'était passé dans chaque pays, des partis communistes, certains l'ont combattu. La question clé aujourd'hui en Europe, c'est cette question-là, est-il possible ou pas, est-il souhaitable ou pas, d'avoir une classe ouvrière, au sens large du terme, qui soit une classe révolutionnaire en toute l'Europe? Le troisième point. Par rapport à la bourgeoisie, mais déjà bien avant Lénine, la bourgeoisie était capable à la fois de se concurrencer et de coopérer internationalement. Lénine le dit dans l'impérialisme. Et c'est ça la caractéristique de la bourgeoisie. C'est à la fois d'être concurrente, mais de savoir aussi quels sont ses intérêts en commun. Et c'est ce qui nous poursuit durant tout le XXe siècle. Et y compris aujourd'hui, la bourgeoisie européenne, je dirais presque peu lui importe qu'il y ait des frontières ou pas. Peu importe qu'il y ait des frontières nationales ou pas. Elle est capable de se dévoiler et déposer. Et la dernière chose, c'est par rapport à la manifestation du 30 mai. J'ai écouté l'orientation donnée à cette manifestation. Je comprends qu'on commémore. Je m'excuse, je n'ai pas d'autre mot. Je ne prends pas ce mot de manière péjorative. Hein. Qu'on commémore le succès des forces démocratique du mouvement ouvrier lors du référendum du 2005. Mais attention, il y a eu ce choix qui est fait par notre peuple, non à 55%. Mais la question clé qui se pose, c'est pas tant de commémorer ce choix, mais de réfléchir et d'interroger et de situer le fait que ce choix n'a jamais été respecté, ni par la droite, ni par le Parti socialiste. Et c'est ça la question clé, la question qu'il faut poser. Comment se fait-il qu'un peuple qui vote à 55% ne soit pas respecté? Et voilà, moi je crois que c'est ça qu'il faut faire avancer durant ce mois de mai.
Merci Pierre. Avant de donner la parole à Marianne, peut-être hein, sur la question du négationnisme et puis les copains qui ont peut-être des choses à dire, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? En essayant de ne pas faire trop long.
Bon, je suis averti, je ne vais pas faire trop long. Donc, par rapport au débat, bon, ben, bien sûr, on peut être d'accord sur les analyses que vous avez mises sur l'Ukraine. Reste par rapport à l'Europe, je suis même amené à me poser la question, sortir de l'Europe ou rester, quand est-ce que nous étions en Europe pour pouvoir poser cette question-là? Parce que depuis le départ, depuis l'historique que vous avez annoncé, il y a bien une bourgeoisie qui s'est dégagée. Ce n'est pas qu'elle s'est occidentalisée ou orientalisée, mais elle est dans une logique mondialisée de dominer les richesses, de dominer les peuples. Donc, à ce moment-là, nous pensons que par rapport à toutes ces questions, les peuples étaient un peu exclus. Je prends comme exemple ce boycott électoral qui existe en Europe. Quand il s'agit d'élections électorales, les peuples ne sont presque pas concernés par rapport à ça. Ce que revient à dire, est-ce qu'il ne faut pas, ce n'est pas une question de représentativité et de manque de confiance que les peuples n'ont ni dans les institutions, ni dans la façon dont on leur produit les programmes et d'essayer de les intégrer dans leur propre cause. Est-ce que ce n'est pas une question primordiale qu'on doit se poser aujourd'hui? De quelle façon pouvons intéresser les peuples d'Europe qu'il s'agit bien d'une domination capitaliste qui leur un peu spolue ce pouvoir d'exister, cette souveraineté dont on a parlé de l'ulte, de la supranation, de quelle façon donc on perd la légitimité, on perd l'efficacité de ramener les questions des peuples européens dans ces institutions. Donc toutes ces questions, est-ce qu'on ne sont pas aujourd'hui amenés à réfléchir sur la démocratie qu'on exerce aujourd'hui et que ce processus-là d'être ou de ne pas être dans l'Europe, c'est une autre façon de gaspiller plus d'énergie plutôt que d'aller vers un travail de réflexion avec toutes les forces de gauche et essayer de proposer une autre alternative plus populaire au plus près des peuples que nous souhaitons représenter.
Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a encore une question, sinon on va peut-être... Un dernier mot de conclusion, je pense, de nos intervenants, très court.
Ouais, très court, parce qu'après on a un autre débat et c'est important que vous puissiez y participer pour ceux qui veulent rester. Quand on parle de l'Union européenne, on parle pas d'Europe automatiquement, hein, parce que l'Union européenne et l'Europe, c'est pas la même chose. Hein, faut quand même sortir d'abord de ça. Hein, moi, je suis pas anti-européen, moi, je suis pour les peuples. Donc je suis pour l'Europe des peuples. Mais voilà, donc l'Union européenne, c'est une construction qui déconstruit les nations. C'est d'abord ça. C'est pas autre chose. Donc moi, je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Et après, il y a des débats à avoir. Oui, mais fondamentalement, je pense... Bon, là, je parle en tant que communiste français. Quand je lis la déclaration de Jacques Duclos en 1950, qui considère, cinq ans après la capitulation de l'Allemagne nazie, quand même, on ouvre le grand marché. C'est la CECA, c'est Schuman. Voilà, Schuman, homme politique, financé par les deux Wendel, etc. Je reviens là-dessus, mais c'est fondamental, quoi. Donc, franchement, l'Union européenne, je pense qu'il faut sortir de ce carcan. Voilà, débat, etc. Mais je rappelle quand même que, ici, si je posais la question combien de pays sont membres de l'Union européenne, je ne suis pas sûr que tout le monde ait raison. Sache le dire. Il y a eu un tel élargissement au nom du paradis. Hein. C'est-à-dire, venez chez nous, ça va être le paradis, vous allez voir comme c'est beau, etc. On a même fait la négation, on a oublié la guerre de Yougoslavie. Hein. Quand même. Regardez ce qu'est aujourd'hui le Kosovo. Hein. Moi, j'ai quand même... c'est au bord de l'Europe, hein. C'est dans l'Europe ou pas, je ne sais pas. Donc c'est quoi? Donc c'est vrai débat qu'on nous devons avoir. Hein. C'est quoi l'Europe, hein? L'Ukraine, je parle même pas de la Turquie. Hein. Et moi, je suis contre l'adhésion de la Turquie. Mais pas d'un point de vue géographique, ni d'un point de vue ethnique, ni d'un point de vue racial, ni rien du tout. Je suis contre parce que c'est une mise en concurrence des travailleurs. C'est d'abord ça qui me fait mon opposition. Qui est des accords de coopération. Oui, coopération mutuelle. Entente mutuelle. Voilà, c'est l'Europe des peuples, quoi. C'est là-dessus qu'il faut qu'on revienne beaucoup plus fortement, je crois, à mon avis. Voilà.
Ouais, le Kosovo, c'est peut-être d'ailleurs un porte-avions américain, non? C'est aussi la principale base américaine, aussi, Camp Bondronstil. Camp, je ne sais plus dire le nom de la base américaine qui est au Kosovo. Mais Michel le connaît par cœur. Bondronstil, c'est ça, voilà. Donc ça aussi, il faut le rappeler, parce que l'impérialisme américain, il est aussi présent. Moi, je dirais simplement en conclusion que, oui, je crois... Malheureusement, il est vrai que on est dans une logique de guerre économique. Même si on nous dit qu'il n'y a plus eu la guerre au sein de l'Europe grâce à l'Union européenne, bon, primo, il y a eu la guerre directe sur les marges de cette Union européenne au fur et à mesure qu'elle se construit, y compris on fait la guerre pour essayer d'intégrer dans l'Union européenne. Et puis c'est aussi une logique de guerre économique, fondamentalement. C'est-à-dire que les travailleurs sont des fantassins de cette guerre économique et le capital avance aussi dans ce sens-là pour essayer, il faut toujours être plus productif, plus rentable pour faire face à la concurrence de l'Est, à la concurrence de la Chine, à la concurrence de l'Afrique. Quand je parle de concurrence, je parle évidemment de concurrence du coût du travail, hein, entre guillemets, hein, c'est ça. Le coût du travail est toujours trop cher du point de vue des capitalistes et donc il faut toujours le baisser. Et plus on a un espace vaste, plus ça permet pour le capital de s'étendre et de mieux travailler pour la baisse du coût du travail. Donc je pense que nous, il faut qu'on raisonne du point de vue des travailleurs, qu'est-ce qui est mieux par rapport à cet instrument politique qui se crée. Est-ce qu'on a besoin qu'il existe ou est-ce qu'on a besoin qu'il n'existe pas, tout simplement, finalement, l'Union européenne? Même si on n'a pas réglé en soi l'existence de la lutte du capital contre le travail. Mais les travailleurs sont des gens pragmatiques. Les travailleurs des entreprises, à un moment donné, ils savent que face à telle réglementation, telle législation qui est prise, c'est important de s'en préoccuper parce que la lutte de classe sera plus facile ou sera plus difficile. Et donc, il est intéressant de se préoccuper de dire est-ce que, avec l'existence de l'Union européenne et toutes ces lois, est-ce que pour nous la lutte est plus facile ou elle est plus difficile? Et fondamentalement, on voit que la lutte est plus difficile aujourd'hui par rapport à ça. On rajoute des éléments supplémentaires de difficulté de cette lutte. Et si au sein de la gauche, on est amené à se dire à un moment donné, oui, mais finalement, on ne peut pas toucher à ce cadre de l'Union européenne et il faudrait qu'au contraire, nos luttes soient des luttes qui soient tout de suite automatiquement communes et simultanées dans cette nouvelle échelle Ok, acceptons cette nouvelle échelle qu'on nous a imposée, et c'est l'échelle de la lutte européenne. Je pense que ça, au contraire, on se crée nous-mêmes une difficulté, et je pense que ça, c'est pas bon. Alors, je termine juste pour dire que, donc, moi, je lance un appel aux 30 pour venir manifester, et je dis qu'on manifeste devant l'Assemblée nationale, le palais Bourbon, justement parce que on veut prendre en compte aussi la donne qu'a évoqué Pierre, le fait que c'est un déni de démocratie. Le fait que le nom n'a pas du tout été respecté, il a été complètement bafoué. C'est pour ça que le choix qu'on a fait, alors, de venir manifester devant l'Assemblée nationale, parce qu'à un moment donné, la démocratie, elle s'éloigne aussi avec toutes ces institutions qu'on nous impose. Et quand ce qu'on a rejeté par la porte est repassé par la fenêtre, hein, c'est Sarkozy qui avait au forceps remis sur le tapis ce traité constitutionnel européen. Et donc c'est nécessaire aussi de venir s'exprimer ce jour-là. Merci.
Oui, il y avait une question sur la mémoire historique en Ukraine. Évidemment, c'est une question centrale. Parce que si on dit que ce qui oppose en Ukraine les ukrainophones et les russophones, ou bien soi-disant les pro-indépendance de l'Ukraine et les pro-russes, c'est totalement faux. Il n'y a rien de plus faux. Effectivement, en Ukraine, la moitié de la population, quasiment 40% de la population est russophone. On peut dire 80-90% de la population est bilingue. Et il y a peut-être 30-40% qui est ukrainophone. Mais ce n'est pas du tout ça le débat. Et en fait, ce qui oppose ces deux parties de l'Ukraine, c'est vraiment la mémoire historique. Et ceux qui sont soi-disant, enfin entre guillemets, russophones, c'est ceux qui considèrent qu'ils sont les héritiers de la victoire de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie en 1945. Et ceux qui sont pour l'indépendance ukrainienne, d'une part, ils n'acceptent pas du tout le plurilinguisme, puisqu'ils sont pour un pays qui soit pur ethniquement, donc quelque chose qui est quasiment racial et quasiment fasciste, enfin proche du fascisme quand même. Et ensuite, leur héros national officiellement, c'est Bandera, c'est Shukevich, c'est-à-dire ceux qui ont collaboré avec l'Allemagne nazie. Donc il est absolument évident que ce conflit n'est pas soluble d'une manière pacifique. Ça doit se terminer par la victoire des uns ou des autres. Donc on espère la victoire de ceux qui sont les héritiers de la victoire sur le nazisme. J'étais à Odessa, donc comme c'est raconté dans le livre. C'est une ville qui est à 90% russophone, mais je dois dire qu'en une semaine, je n'ai pas entendu une seule personne parler ukrainien. Et j'étais dans un bureau de poste, tous les employés parlaient russe uniquement, les clients parlaient tous russe uniquement, mais par contre, toutes les inscriptions sur les murs, qu'elles soient administratives ou non, étaient en ukrainien, hein, y compris des petites annonces, etc. Je pense que les gens devaient se sentir un petit peu en territoire occupé quand même. Mais j'ai parlé avec ces gens avant la prise du pouvoir à Kiev par la junte ukrainienne. Ils n'avaient rien contre les Ukrainiens. C'est le même peuple. Dans la même famille, on a des Ukrainiens, on a des Russes, on a des Grecs, on a des Bulgares, des Tatars, etc. C'était l'État plurinational qui existait au temps de l'Union soviétique. Et en fait, le clivage se fait sur la mémoire historique, sur qui sont nos héros. Quand nous sommes arrivés à Sébastopol, sur la route entre Simferopol et Yalta, c'était peu après le 9 mai, il y avait des immenses placards publicitaires « Merci à nos grands-pères pour la victoire ». Et la mémoire historique, elle est toujours présente. Sur l'Europe, nous sommes allés aussi en Moldavie, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Il y a un petit pays, une enclave à l'intérieur de la Moldavie qui s'appelle la Gagaouzie. Et ce sont des gens qui sont réputés pro-russes depuis Catherine II. Ce sont des turcophones orthodoxes, un mélange un peu curieux. Mais ils sont, à 99% contre l'Europe. Ils étaient en pleine campagne électorale, c'est pourquoi nous étions allés là-bas. Et l'enjeu, c'était un peu l'Europe. Et il y a un parti pro-européen qu'on a rencontré qui logeait dans le même hôtel que nous. Et ils ont dit, ben non, on fait notre propagande électorale, mais on ne leur dit pas qu'on est pour l'Europe, parce que sinon on se fait jeter tout de suite. Et on a entendu aussi dans la rue une altercation, il y avait des militants du Parti communiste qui faisaient leur campagne et qui essayer de ménager la chèvre et le chou, qui disaient « Oui, on n'est pas contre l'Europe, mais... » Ils se sont fait engueuler par les gens, mais comment, tu n'es pas contre l'Europe ? Mais va demander aux Bulgares ce qu'ils en pensent. Et donc, c'était un cadre du Parti communiste. Il essayait de se justifier. Tu n'as pas entendu le « mais ». Et pour la population locale, il était absolument hors de question de faire des nuances comme ça. Alors, sur le livre, en fait, c'est un livre beaucoup d'interviews et de reportages. Et oui, achetez-le d'abord. Vous avez la chance d'avoir ici, à la fête d'avion, l'éditeur, notre éditeur de Delga. Qui est venu spécialement de Paris. Donc vous pouvez acquérir le livre directement à l'éditeur et aussi sur les tables à la librairie là-bas. Et bien sûr, je me ferai un plaisir de vous le dédicacer, soit ici, soit éventuellement à la section d'Arras. Vous pourrez aussi voir une exposition sur Odessa, sur le massacre dans la maison des syndicats le 2 mai 2014, où il y a eu officiellement 48 morts brûlés et sans doute beaucoup plus, peut-être une centaine. Voilà.
Raoul, on va intervenir ? Oui.
Merci d'être ici. Mais voilà, moi je crois que le débat était très constructif et je crois que ça demande encore plus se rencontrer pour pouvoir débattre de cette question complexe qui est celle de la construction de l'Union européenne. Parce qu'en tout cas, on est d'accord sur un point, c'est que on doit se battre tous ensemble contre cette Union européenne qui n'est pas réformable et qui est vraiment au service des multinationales européennes. Je pense qu'on est tout à fait d'accord là-dessus. Et deuxièmement, et je voudrais finir par ça, c'est qu'en tout cas, pour nous en Belgique, on a tout un débat, tout un travail à faire sur comment pouvoir faire des analyses stratégiques et en même temps rester très proche des gens. Parce que c'est un problème aussi qu'on a, c'est de pouvoir faire un discours qui est audible. Je pense que dans la plupart des pays européens, les forces de droite ou de droite extrême augmente de plus en plus. Justement, il y a une exception grecque, et tant mieux qu'elle est là, pour l'instant, qu'ils ont pu en tout cas capter, je parle la gauche au sens pluriel du terme, la gauche anticapitaliste, mais pour l'ensemble des pays européens, il y a quand même un danger important, qui est celui de voir les partis de la droite ou de la droite extrême vraiment, je dirais, nous voler complètement une forme d'audibilité au sein même de la classe ouvrière qu'on veut représenter. Je pense que vraiment, il y a un enjeu qui est très important, c'est comment pouvoir refaire les analyses de principe, parce qu'on doit retrouver des couleurs d'une vraie gauche vraiment rouge, une gauche révolutionnaire qui peut vraiment remettre en cause fondamentalement le capitalisme, mais en même temps, qui ne se fasse pas marginaliser dans un coin, parce que c'est un danger qui est aussi présent. On peut très bien avoir raison sur nos analyses de fond, si on n'arrive pas à en convaincre une partie conséquente de notre classe ouvrière, on perdra le combat aussi. Et donc c'est ce débat qui est double, mais que nous avons aujourd'hui très modestement au niveau de notre parti, quand on dit qu'on veut être un parti qui est et un parti de principe et un parti de la souplesse. C'est vraiment cette dialectique entre les deux qui me semble être très importante et sur laquelle on a envie vraiment beaucoup d'échanger avec d'autres camarades en Europe, parce que c'est ce double mouvement qui est nécessaire. Et retrouver des principes vraiment d'une gauche marxiste, mais en même temps pouvoir avoir un discours qui est audible au niveau des travailleurs qu'on veut représenter, parce que sans ce rapport de force-là, on se fera battre aussi par la droite, et on sait aujourd'hui que l'Union européenne a intérêt aussi à soutenir les partis de la droite et de la droite extrême tant qu'elle reste dans son carcan européen. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation, et à tantôt pour un petit verre.
Alors, juste pour terminer, je rappelle trois petites choses. Marianne dédicace son livre que je vous conseille vivement d'acheter, d'acquérir. Je salue la présence d'un représentant de l'ambassade du Vietnam en France. Je ne sais pas s'il est encore là, mais en tout cas, on est honoré de le recevoir sur notre fête. Il est là, on peut l'applaudir. On est très heureux de le recevoir sur la fête. Et le débat qui est à suivre, qui est un débat extrêmement passionnant avec deux personnalités, un brillant sociologue, Saïd Bouamama, et Michel Collomb, qui viendront donc débattre du dernier ouvrage de Michel Collomb, « Je suis ou je ne suis pas Charlie », je vous invite vivement à participer au débat. Voilà, merci à vous.